Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas tout de suite dans tout le thème, car je vais vous le rappeler simplement dans l'introduction que je ferai à ce message. Mais d'abord, faisons la lecture, Genèse 32, et on démarre dans le verset 1er. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, et il les bénit. Ensuite, Laban partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour obtenir ta faveur. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il est aussi en marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Et il dit « Si Ésaü vient à battre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute cette bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qui était venu en sa possession pour faire un présent à son frère Ésaü. » Nous poursuivons à partir du verset 23. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, il les fit passer de le torrent, et il le fit passer à ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » L'homme reprit « Jacob ne sera plus ton nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. » Le soleil se leva. Lorsqu'il passa Pénuel, Jacob boitait de la hanche. Et encore au chapitre 33, nous lisons simplement ceci au verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser et ils pleurèrent. Le thème que j'ai eu à cœur pour nous ce soir, lorsque la lutte à laquelle on voudrait tant échapper devient salutaire. Je ne sais pas si vous aimez les luttes. Vous allez me dire, c'est une affaire de garçon, ça, c'est une affaire d'homme. Mais je ne suis pas sûr que la plupart des hommes même aiment se bagarrer. Mais la lutte dont j'aimerais vous parler ce soir, qui est une lutte très spéciale, un combat particulier, nous allons voir qu'elle a sa raison d'être, qu'elle n'est pas là par hasard et qu'elle va produire quelque chose de bien et de positif. Revenons à l'histoire de Jacob, parce qu'il nous faut comprendre pourquoi cette lutte aura lieu dans la vie de Jacob. Souvenez-vous, c'est une longue et belle histoire, l'histoire de nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et l'histoire de Jacob en particulier est pleine de rebondissements, pleine d'histoires intéressantes. d'histoire qui nous donne envie de lire la Bible, hein, parce que c'est pas ennuyeux, c'est quelque chose d'intéressant. Jacob, donc, a un frère jumeau qui s'appelle Ésaü, et tous deux sont les enfants de Isaac et Rebecca. Isaac, c'est le fils d'Abraham, qu'il a eu dans sa vieillesse, on le sait. Et puis, Rebecca était donc la femme qu'il avait eue. Et c'était une histoire qui est une belle histoire au début, mais leur vie de couple, qui était une véritable histoire idyllique, un poème d'un mariage réussi, à la base, finalement, avec le cours du temps, est devenue une histoire à problème à répétition. Et nous voyons à un moment donné dans l'histoire de cette famille de quatre personnes, Isaac, Rebecca et les deux jumeaux, nous voyons qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement. Il y a plein de dysfonctionnements dans cette famille. Entre Isaac et Rebecca, ça ne marche plus très bien, leurs caractères sont fort différents. On voit une Rebecca qui est entreprenante, un Isaac qui s'intéresse à bien manger, puis ça s'arrête à peu près là. Alors qu'il avait pourtant bien commencé, il avait prié pour sa femme, etc. Une belle histoire, mais qui finalement est une histoire à problème. Et puis entre les deux frères jumeaux, il y avait une rivalité, comme ça peut se passer, quelquefois. Et finalement, non seulement il y avait une rivalité entre les deux frères, Jacob et Ésaü, mais il y avait aussi des préférences. Et il y avait la maman, donc Rebecca, qui tenait du côté de Jacob, et puis Isaac qui tenait du côté d'Ésaü. Une histoire pleine de rebondissements. Quand vous lisez les passages précédents, les chapitres précédents, vous verrez que Jacob, son nom veut dire trompeur. Et il n'a fait que ça. Il a vraiment réussi sur cette ligne-là. Une pleine réussite en tromperie. Il a réussi, un peu comme notre frère. Il a réussi une partie de sa vie de la mauvaise manière. Et le fait de tromper, le fait de rouler les gens, le fait d'être opportuniste comme cela, a fait de lui un gars intéressant, mais qui finalement, se trouve avec des portes fermées dans sa vie. L'histoire se termine parce qu'il doit fuir. Il a pris la bénédiction qui revenait à son frère. Mais quelque part, la parole de Dieu est intéressante parce que aussi tordu qu'est ce Jacob, aussi roublard qu'est ce Jacob, aussi futé qu'il est, dans le mauvais sens, il sait exploiter les situations, il est malin. Dieu dit dans sa parole, dans Romains chapitre 9, versets 11 à 13, il va dire que selon le dessein éternel de Dieu, pour que ce dessein éternel subsiste, et cela, dit-il, ne dépend pas des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cette parole peut nous choquer. J'ai aimé Ésaü. Et j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Un homme trompeur, la Bible dit clairement, j'ai aimé cet homme trompeur. Cet homme qui était mauvais, parce qu'il y a une élection sur sa vie. Et quand Dieu choisit quelque chose, quand Dieu choisit quelqu'un, quelle que soit sa vie, quelles que soient les ratés de sa vie, Dieu va le prendre en main, pour en faire une réussite, une œuvre transformée entre ses mains. Dieu est capable de prendre des choses cassées, brisées, tordues, pour les redresser, les purifier, les façonner à son image et pour faire réussir son plan. Et Dieu a aimé Ésaü parce que définitivement, il avait une soif spirituelle que Ésaü n'avait pas. Dieu vous aime aussi, non pas d'une manière inconditionnelle seulement, mais il vous aime aussi parce que vous avez une soif spirituelle. Il apprécie chez nous, chez vous, cette soif de la bénédiction, cette recherche de la bénédiction, ce désir, alors que peut-être il y a plein de choses qui ne marchent pas, il désire voir en nous une soif spirituelle. Jacob, il voulait ça. Il avait cette soif spirituelle. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Ésaü n'a pas été élu? Pourquoi est-ce que Jacob a été élu? Le Nouveau Testament nous répond en nous disant, en Christ, chaque être humain est élu. Vous avez été choisi, vous êtes élu en Jésus-Christ. Chaque être humain a une élection sur sa vie et une responsabilité de réponse, bien sûr. Mais il y a une élection sur chaque personne. Car Dieu aime chaque être humain et il ne rejette personne. Au chapitre 28, lorsque Jacob va fuir la maison parce qu'il doit dire vite au revoir à papa et maman en toute vitesse et il ne doit surtout pas dire au revoir à son frère Ésaü qui lui en veut, on va dire, presque à mort. Et il doit partir vite, vite, vite avec un petit baluchon, seul avec un bâton. Et là, dans la solitude, il va partir et la parole de Dieu dit qu'il y aura un rêve et dans ce rêve, où il va passer la nuit, ce sera le nom de Bethel, dans ce lieu où il aura ce rêve incroyable qui va lui rester, qui va être marqué pour sa vie. Il verra cette échelle où les anges de Dieu montent et descendent et il verra cette révélation qui va l'accompagner. Malgré tout ce qui lui arrive, malgré tout ce qu'il a fait, toutes les bêtises qu'il a fait, il reçoit encore un rêve. C'est magnifique. Dieu aurait pu dire, mais... Mon ami, maintenant c'est fini, hein. Moi je ferme le ciel pour toi. Hein. Moi je t'ai donné certaines opportunités, certaines grâces, mais maintenant si tu joues avec le feu, fini, terminé. Dieu dans sa grâce n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Dieu dans sa grâce, au travers peut-être de détours et de mauvais choix, dans son amour et sa main étendue et sa puissance et sa capacité de nous relever depuis les abîmes et d'aller nous chercher au fond du monde et dans l'extrémité de la terre, il est capable encore de nous donner un rêve. Il a donné un rêve à Jacob alors qu'il était en fuite et qu'il avait tort. Il avait tort. Il va dire au verset 15 du chapitre 28, le Seigneur dans ce rêve donc va dire ceci, « Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire car je n'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. » Frères et sœurs, prenez un peu ce verset pour vous. Jacob est en fuite, il a tort, il a péché, il a mal fait. Au lieu que Dieu l'abandonne à son pauvre sort, il lui dit simplement ceci, « Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai et je ne t'abandonnerai pas. » Qu'est-ce que nous, on aurait dit ? Eh bien, bien fait pour toi. Hein? Eh bien, reste dans ton jus, bien fait pour toi. Hein? Eh bien, tu as ce que tu mérites, non ? Nous sommes comme ça parfois. Nous disons, mais bien fait pour lui, parce que ben, je lui avais dit, je pensais que ça allait lui arriver peut-être. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Et moi, ça m'étonne, ça m'étonne et ça m'interpelle. Je dis, mais Seigneur, quel droit est-ce que j'ai de juger les gens quand toi, tu fais grâce comme ça ? Quand toi, tu me fais grâce à moi ? Quand toi, tu fais grâce au frère qui est là ? Seigneur, tu lui as fait une grâce, grâce sur grâce. Je pense qu'il a raconté peut-être une série de pages, mais tu pourrais en raconter 50 de plus. Grâce sur grâce. Et Jacob, alors qu'il est en fuite et qu'il n'y a rien qui marche, il reçoit une parole de grâce. Quelque chose que j'aime chez Jacob, c'est qu'il va donc partir, il va aller chez Laban, chez l'oncle, et là il va rester tout un temps, et finalement le trompeur sera trompé, et il y aura des rebondissements de tout genre, mais Dieu sera vraiment avec lui. Il réussira. Il réussira. Ce n'est pas encore le Jacob transformé, mais bien des choses lui réussissent. Il s'emmène avec un grand troupeau, finalement. Au bout de 20 ans, il a carrément deux femmes, deux servantes, des enfants, des troupeaux. Et tout le texte nous dit, mais Dieu était avec lui dans une vie qui n'était pas tout à fait droite. Étonnant, étonnant. Mais le grand rendez-vous de Dieu arrive et il ne peut pas y échapper. Vous savez, Dieu peut nous bénir, car Dieu est plein de grâce et de bonté. Et il peut nous donner, car la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu est là aussi pour nous pousser à le rencontrer. Mais les vrais rendez-vous où il s'agira de l'essentiel, où il s'agira de la transformation du cœur, on ne peut pas y échapper. Il vient pour chacun d'entre nous. Et ce que j'aime chez Jacob, c'est qu'il a gardé cette vie spirituelle, cette soif spirituelle. Il savait qu'il y avait une élection sur sa vie. Il ne pouvait pas la définir, mais il savait qu'il y avait quelque chose. Une élection était là. J'ai aimé Jacob. Et cette élection, cette soif spirituelle a été permanente. Frères et sœurs, maintenez, coûte que coûte, la soif spirituelle dans votre cœur. Gardez la communion comme étant la chose qu'il ne faut jamais perdre. Gardez l'intimité avec Dieu comme la chose la plus précieuse, même si un jour vous êtes dépouillé d'un tas de choses. Que votre trésor soit la communion avec le Seigneur. Et lorsque Jacob va repartir, après 20 ans, oui, 20 ans, il a passé 20 ans chez Laban, Dieu va lui dire, chapitre 31, verset 3, l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et je serai avec toi. » Retourne au pays de tes pères, je serai avec toi. Le Seigneur va donc préparer cet homme qui entend encore la voix de Dieu, convaincu de cet appel clair, même après 20 ans, d'absence et de construction de sa vie, tant bien que mal, dans un environnement qui n'était pas forcément tout mauvais, mais qui n'était pas idéal non plus. Il a été témoin de la bénédiction. Lorsque vous lisez le chapitre 31, vous verrez cela. Il raconte lui-même que le Dieu de mon père a été avec moi, verset 5. Même si le beau-père, Laban, a changé son salaire 10 fois, l'a trompé pour que lui mettre entre les bras Léa au lieu de Rachel, et que Dieu n'a pas permis de lui faire du mal, verset 7. Dieu a arraché le troupeau de la main de Laban pour la donner à Jacob, verset 9. Il énumère les bénédictions qu'il a reçues après ses 20 ans, après ses hauts et ses bas. Et puis, la séparation ne se passe pas très bien non plus, parce que Laban... À un moment donné, il rentre chez lui, puis il n'y a plus personne à la maison. Jacob est parti comme un voleur. Il a pris ses femmes, il a pris ses troupeaux, il a pris ses enfants, il n'a pas dit au revoir à personne et il est parti comme cela. Et la parole de Dieu dit encore que cette rupture, Dieu dit, ça ne va pas. Et Laban va le poursuivre avec l'intention vraiment de lui régler les comptes, de lui botter le derrière, de lui montrer qui est le chef ici. Et il s'en va vers une véritable confrontation pour régler les comptes avec son beau-fils, parce qu'il n'est pas question que le beau-fils lui marche sur les pieds. Mais le Seigneur va se mêler de cette affaire et le Seigneur va dire à Laban clairement, « Attention, ne lui fais pas de mal. C'est un élu. Je m'occupe de lui. » Et Laban arrive, le contact avec Jacob et ses enfants, etc., ses femmes, donc les enfants de Laban, se passe bien, dans la paix, et ils vont faire une alliance, et ils vont clairement se séparer avec des choses claires, et ce sera une séparation dans la paix, dans la douceur, avec des consignes très strictes, puisqu'il va dire clairement, c'est au chapitre 31, verset 52, vous trouvez ça, ils vont monter une montagne de pierres, ils vont faire un stèle, et ils vont dire, eh bien voilà, moi quand je serai parti, je pourrai revenir jusqu'ici, mais pas plus loin. Et toi, Laban, quand tu seras rentré chez toi, tu pourras reculer, mais pas plus que ça. Donc ils mettent les choses bien au clair, ils partent dans la paix, mais ils savent que c'est le moment de la séparation. Maintenant, Jacob est à nouveau seul. Il est à nouveau seul et imaginez-vous, 20 ans se sont passés. Il rentre chez lui dans une maison qu'il avait laissée dans les problèmes. Il a dû fuir sa maison, il était en brouille avec son frère. Il était en brouille avec... son frère surtout, mais c'était aussi plein de malentendus avec son père et sa mère étaient malheureuses. Il rentre à la maison, maman n'est plus là. Oui, sa mère l'avait fait partir, Elle avait organisé la fuite il y a 20 ans en arrière, mais maintenant elle n'est plus là, elle est décédée. Son frère, il a peur. Son père vit toujours. De l'autre côté, il y a Laban, il vient de lui dire au revoir et ne peut plus retourner chez Laban. Les choses sont claires. Son passé est coupé, son avenir est incertain. Il y a une phase de transition où Dieu a un rendez-vous avec lui. Il avait péché contre Ésaü. Il lui avait volé quelque chose, non pas de l'argent, non pas un héritage matériel, mais un héritage spirituel. Il l'avait pris, il était allé de l'avant pour avoir la bénédiction du premier-né, et il avait donc trompé et volé son frère de quelque chose qui était important et précieux. Car Ésaü, qui nous est appelé dans l'Écriture comme un profane, un homme peu intéressé aux choses spirituelles, mais lorsqu'il est privé de la bénédiction du droit d'aînesse, il va tout à coup se réveiller et dire « Mais ça, c'est pas possible. Il me faut la bénédiction du Père. » Il va pleurer « Père, Père, est-ce que tu n'as qu'une bénédiction ?» Il était privé de la bénédiction et c'était grave pour Ésaü. Frères et sœurs, s'en aller dans la vie sans la bénédiction du Père, il vous manquera toujours quelque chose. Ésaü savait qu'en s'en allant dans la vie, sans la bénédiction de son papa, il était privé de quelque chose d'important. Et il pleurait, il criait, « Seigneur, Père, donne-moi encore quelque chose. N'as-tu qu'une bénédiction ?» Jacob l'avait reçu. Jacob donc avait volé son frère. Et ce péché maintenant, après 20 ans, est encore bien présent. Peut-être que Ésaü a oublié un peu toute cette histoire. On ne sait pas, l'Écriture ne dit pas. Mais l'Écriture dit une chose, c'est que la conscience de Jacob était là pour lui rappeler cela. Et 20 ans deviennent 20 secondes. Le péché de Jacob devenait vivant en un instant. Frères et sœurs, le péché nous rattrape toujours tôt ou tard. Les choses anciennes, vous pouvez les enterrer et faire passer des années là-dessus, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Combien de gens sur leur lit de mort ont besoin de confesser des choses qui sont vieilles de 60 ans? J'ai entendu cela, je venais à peine d'arriver ici, que j'étais convoqué auprès d'une personne qui se mourait et qui avait besoin de confesser une toute vieille histoire. Elle avait besoin d'en parler à un pasteur qui connaissait rien, qui venait d'arriver. Et j'étais l'auditeur de ce témoignage-là, d'une confession à la veille de sa mort. Dieu désire nous débarrasser de nos fardeaux et de nos péchés. Dieu désire qu'on règle les choses. Car le temps ne règle rien en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, il faut dire que Jacob n'avait pas vraiment vu grand-chose non plus se passer dans... Il avait vu la bénédiction, mais le rêve qu'il avait reçu en partant de chez ses parents, c'était le seul rêve qu'il avait eu. C'était la seule révélation véritable. Il a été béni matériellement et il a vu le Seigneur le soutenir et l'aider, c'est vrai, mais la révélation a manqué pendant ces 20 ans. Bien sûr, il s'en revient avec Rachel, sa bien-aimée, c'était aussi un ange, mais sans elle. Elle était douce, jolie, et c'était sa bien-aimée pour laquelle il avait travaillé 14 ans. Mais maintenant, il est seul. La Bible dit dans ce texte que nous avons lu, au verset 25, chapitre 32, qu'il avait renvoyé ses troupeaux vers Ésaü, les avait fait précéder, il renvoie ses enfants, il laisse partir même Rachel, sa bien-aimée, et il se retrouve sans protection, sans rien du tout. Et il a peur. Il a peur. Il a conscience de la présence de Dieu. Et il commence à prier. Au chapitre donc 32, verset 10, et il dit « Seigneur, Seigneur, j'ai peur, délivre-moi, s'il te plaît, de la main de mon frère. » Est-ce que Dieu va l'exaucer? Dieu ne va pas le délivrer de la main de son frère. car Dieu veut qu'il règle la vie avec son frère, qu'il retrouve la paix avec son frère. Dieu ne va pas éliminer son frère, ce serait trop facile. Souvent, on prie comme ça, « Seigneur, tu peux enlever cette personne qui m'ennuie. Seigneur, tu peux faire en sorte que ce... » Ou bien Goliath sur le champ de bataille, « Seigneur, tu peux donner à Goliath peut-être un virus ou bien peut-être une maladie, une grippe, au moins qu'il ne soit plus là, qu'il soit malade, qu'il s'en aille, qu'il tombe mort. » Comme ça, on est débarrassé. Mais le Seigneur le laisse là parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Le Seigneur ne nous enlève pas tout ce qui nous embête. Il veut nous faire passer par son école. C'est ça qui est important. Non, il ne va pas être exaucé. Délivre-moi de mon frère. Non, non, non. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe. Quelqu'un d'autre va le frapper. Quelqu'un d'autre. Il dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va exaucer cette prière. Aide-moi. Car le Seigneur ne veut pas seulement travailler le cœur de son frère. Le Seigneur veut travailler son cœur à lui. Et c'est ce que j'avais vraiment très fortement à cœur au début de notre semaine de jeûne et prière, il y a quelque temps. Pour moi, c'était clair. Nous avions beaucoup de sujets les uns et les autres. Mais le Seigneur nous disait clairement, je veux m'occuper de ton cœur à toi. Je veux que tu t'occupes de ton cœur à toi et je veux régler des choses dans ton propre cœur et je m'occuperai des autres moi-même. Occupe-toi de ton cœur. Dieu a un rendez-vous pour Jacob ici. Il reste seul. Il est séparé de tous et il sent que quelque chose est en route, quelque chose va se passer. Il y a un rendez-vous spécial, il y a un combat qui commence à se préparer. Et tout à coup, cet inconnu arrive et un combat s'engage. Il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qu'il veut exactement. C'est la nuit, il ne voit, il sait qu'il y a un combat, mais il ne sait pas de quelle nature, il ne sait pas de quoi il s'agit. N'est-ce pas quelquefois comme ça, frères et sœurs? C'est que nous sommes tout à coup propulsés dans un combat qui est arrivé comme cela, dans la solitude. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne savons pas vraiment qui est derrière ce combat exactement. C'est qui se bat contre moi? C'est mes pensées? C'est le diable? C'est une attaque? C'est des souvenirs du passé? C'est peut-être des choses de haine ou d'amertume qui remontent? Ou bien des choses qui font violence dans mon être et une espèce de tempête qui s'engage? On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais il y a un combat. Il y a un combat. Et la nature de ce combat, Jacob ne le discerne pas. Ça lui tombe dessus. Il est saisi par cette force et de ce combat qui va commencer à prendre de l'ampleur et qui va durer alors qu'il est inexplicable. Avec quoi est-ce que nous nous battons de temps en temps? Est-ce que nous ne sommes pas de temps en temps pris dans des espèces de combats comme ça qui nous tombent dessus et on se demande qu'est-ce que ça veut dire? Et beaucoup de personnes s'interrogent, ils se disent « mais je ne comprends pas ce que je vis ». Mais nous nous battons parfois simplement contre nous-mêmes, contre nos peurs et nos angoisses, contre un passé non réglé, contre des questions sans réponse, des tendances, des chutes, des tentations. On se bat avec la volonté de Dieu. On se bat parfois avec la volonté de Dieu. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, c'était un vrai combat. Mais il avait dit dans son cœur, « Père, quel que soit le combat, quelle que soit la souffrance, je t'obéirai. Non pas à ma volonté, mais la tienne. » Mais c'était un combat quand même. Il se battait contre la souffrance qui venait contre l'horreur de la croix qui venait contre lui. Il se battait contre cela. Il ne voulait pas de ça. Sa chair réagissait. Mais en même temps, son âme et son cœur étaient tellement assuré que la volonté de Dieu, la volonté de son Père, il voulait la faire par amour pour nous. Il voulait coûte que coûte la faire, quel que soit le combat. Et Jacob, dans ce combat, il discerne peu à peu avec le temps qui passe, il va réaliser que c'est quelque chose d'important, ce n'est pas un combat inutile. Et j'aimerais vous dire ce soir, si tu es dans un combat, mon frère, ma sœur, sache qu'à un moment donné, tu vas comprendre de quoi il s'agit, que Dieu a un enjeu là-dedans, qu'il y a quelque chose, il y a un but, un objectif, c'est la transformation du cœur. C'est la transformation de notre identité, la transformation de notre vie à l'image de Christ. Dieu désire, au travers du combat solitaire au travers duquel nous passons tous un jour ou l'autre, il désire nous transformer à l'image de son Fils. Et ça ne se passe pas autrement que dans des combats. Et des combats parfois qui durent, qui ont du temps. Toute la nuit, il s'est battu. Toute la nuit, toute la nuit. Parfois, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous avons quand même un combat pour le faire. Nous avons quand même un combat pour le faire. Permettez-moi juste de raconter cette histoire. Lorsque nous sommes venus à Genève, nous avons été approchés par les anciens de l'époque en 1997. Et lorsque nous sommes rentrés de vacances, ma femme relève le répondeur du téléphone au mois d'août 1997 et il y avait un message de quelqu'un du conseil de l'église de Genève. Et lorsqu'elle a entendu ce message sur le répondeur, c'était clair et net, on va nous appeler à Genève, ce sera le moment du déménagement. Comme ça, sans avoir eu un entretien. C'était une indication, c'était une impulsion, c'était une intuition très féminine peut-être, mais c'était comme ça. Mais cela n'empêche qu'entre 97 et 99, nous sommes arrivés ici 2 ans plus tard. Dans ce temps-là, il y a eu non seulement des discussions, mais aussi des combats. C'est comme si au départ, il y avait quelque chose de très clair, et entre l'accomplissement de cette chose très claire, il y a eu toutes sortes de combats et de oui, de non, de peut-être, mais oui, etc. Il y a ce combat, ce temps de combat pour la volonté de Dieu. Car il y a quelqu'un qui veut nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut nous empêcher d'évoluer avec Dieu, d'entrer dans son projet et d'être transformé à son image. Il y a quelqu'un qui veut empêcher ça. Et lui va se mêler de ce combat. Il va brouiller les cartes encore. Car il y a un enjeu important pour que Jacob devienne Israël, pour que Jacob devienne un homme transformé, pour devenir le grand patriarche qui va finalement et jusqu'à sa mort prophétiser sur ses 12 fils. Pour que cet homme devienne Israël, changé, transformé, eh bien, il fallait un combat rude parce qu'il y avait un enjeu très important. Frères et sœurs, si vous passez par des combats rudes, c'est qu'il y a un enjeu très important. Un enjeu très important où Dieu désire nous arrêter pour nous montrer quelque chose et surtout s'occuper de notre cœur et de notre vie. Et maintenant, j'aimerais que nous réalisions vraiment le centre de cette histoire, le centre de cette histoire. C'est que Jacob va réaliser qu'il est en train de se battre avec Dieu en réalité. Et l'adversaire, au lever du jour, alors qu'il ne l'a pas vu, il ne sait pas de quoi il s'agit, il réalise que cet adversaire, en fait, est une bénédiction. C'est incroyable. Que ce avec quoi je me suis en train de me battre est une source de bénédiction pour moi. Et il va dire, mais je ne te lâcherai pas, toi mon adversaire, toi qui m'en fais voir de toutes les couleurs, toi qui me fais souffrir, toi qui m'épuise, je suis au bout du rouleau, mais je m'agrippe à toi car je sais que tu vas me bénir, tu peux me bénir. Et c'est là que Dieu est à l'œuvre. Frères et sœurs, ce soir, si vous êtes dans cette lutte, vous êtes en train de vous battre contre quelque chose, contre peut-être un péché, une tentation, contre quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose du passé qui revient et qu'il faut régler. Et Dieu dit maintenant, c'est le moment de le faire. Vous vous battez là-dedans et vous dites oui, non, mais, et vous argumentez, et vous battez là contre. Finalement, le Seigneur permet qu'on arrive au bout de nous-mêmes, au bout de nous-mêmes. C'est au bout de la nuit, il est complètement épuisé, qu'il va littéralement s'écrouler en s'agrippant à l'ange et dire « Maintenant, je craque. Bénis-moi, c'est tout. Je veux que tu me bénisses. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. » Et là, le Seigneur va bénir. Jacob va dire « Je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. » Si vous vivez un combat, contre vous-même, contre quelque chose, pour connaître la volonté de Dieu. Dites comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'es béni. J'ai besoin pour avancer, pour faire le prochain pas. Je ne peux pas avancer sans ta bénédiction. Ce soir, je veux faire un pas, mais avec ta bénédiction, sinon je n'avance pas. Je veux avancer avec ta bénédiction. Et il va réaliser que l'ange, qui est le Seigneur lui-même, le Seigneur va le bénir et il va lui donner un autre nom. Il va lui dire, comment tu t'appelles ? Jacob, le trompeur, celui qui s'est fait tellement avoir par sa nature humaine, charnelle et tordue. Je suis Jacob, je suis celui-là, Seigneur, je le reconnais. Transforme-moi. Et Dieu va lui dire, tu seras Israël, prince avec Dieu. Prince avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, cette transformation du cœur, c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Une transformation du cœur à l'image de Jésus. Car dans le ciel n'entrera que ce qui a été transformé à l'image de Jésus. Il rentrera dans le ciel rien d'humain, mais tout ce qui a été transformé par la main merveilleuse du Seigneur. Tous les noms changés, toutes les identités changées, les cœurs changés. Ça se passe dans un temps où nous sommes seuls, où nous sommes peut-être seuls, et où nous sommes en train de nous battre, et où nous sommes appelés à vaincre. Où nous sommes appelés à laisser Dieu vaincre notre nature humaine. Laissons Dieu vaincre dans ce combat. Capitulons, laissons-nous aller en nous agrippant au Seigneur en disant je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni, je veux cette bénédiction. Je veux cette bénédiction, c'est là le secret. Osée chapitre 2, 12, tu peux mettre peut-être Osée 12, 5, où il est dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur, il pleura et adressa des supplications. Peut-être dans ce combat, vous pleurez, vous suppliez le Seigneur, mais vous serez vainqueur. Alléluia. Vous serez vainqueur. Vous serez vainqueur dans ce que... Et Jacob va appeler, alors qu'il avait déjà dit Bethel, la maison de Dieu, lorsqu'il a eu ce rêve. Maintenant, il n'est plus dans le rêve, il est dans la réalité. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Je n'ai pas vu Dieu dans un rêve. J'ai vu Dieu face à face. Et il va appeler ça Péniel, face à face avec Dieu. Car la vraie issue de ce combat, c'est la bénédiction, et plus que ça, c'est connaître Dieu face à face. Connaître Dieu face à face, vraiment. Mon oreille avait entendu parler de toi, disait Job, maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Connaître Dieu, quitte à être boiteux, quitte à être affaibli, car notre vieille nature, elle doit être affaiblie. Notre vieille nature doit être crucifiée, dit le Nouveau Testament. La croix est indispensable pour qu'il y ait changement de nature. La croix d'abord, la résurrection ensuite. La mort d'abord, la nouvelle vie ensuite. Pour cela, il faut reconnaître que nous sommes Jacob et que nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de nous repentir, de reconnaître ces choses. Reconnaître ces choses. Et de dire, Seigneur, il faut que tu me transformes, que mon nom soit changé, que mon identité soit changée. J'en ai besoin. C'est le message que j'avais besoin de vous donner ce soir. Frères et sœurs, le texte pour moi est clair. Et ce que j'aime en conclusion, c'est de voir, alors qu'il avait peur de rencontrer Ésaü, qu'il avait bien des choses à se reprocher, et il avait déjà fait son plan pour le rencontrer en envoyant les cadeaux à l'avance, etc. En réalité, il n'avait pas besoin de tout ça, car c'est Ésaü qui court vers lui et l'embrasse comme son frère. Tout est préparé, toutes les routes sont libres, toutes les choses sont arrangées, parce qu'il y a eu cette victoire, il y a eu ce stop à Jabbok, il y a eu ce stop, il y a eu ce combat, il y a eu cette victoire, il y a eu cette transformation, il y a eu ce nom nouveau, il y a eu cette bénédiction, tout change. Parce que le combat dont il avait tellement peur est devenu un combat salutaire. Votre combat, n'ayez pas peur. Il est contrôlé par le Seigneur lui-même. Et il y aura une issue heureuse à ce combat. J'aimerais vous le rappeler ce soir. J'aimerais vous le dire, une issue heureuse, même si ça dure toute la nuit, même si c'est difficile et qu'on aurait envie de fuir et d'échapper à tout cela. Ce combat, il est salutaire parce que nous allons sortir affaiblis, dans notre chair, et nous allons sortir grandis dans notre vie spirituelle. Amen.